Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, durcissement de la grève générale au Tchad, les confédérations syndicales privées rejoignent le mouvement. La terreur Boko Haram continue, plus de 8 morts au Nigeria et dans l'extrême nord du Cameroun. L'ANC veut trancher la question du départ anticipé de Jacob Zuma qui, lui, refuse de partir. En Syrie, 28 civils dont 4 enfants ont été tués dans des raids aériens. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Week-end meurtrier dans l'extrême nord du Cameroun et au Nigeria. Des attaques attribuées à Boko Haram ont fait au moins 8 morts dans les deux pays. Abdourahmane Dia.
Au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, 6 personnes ont été tuées par des membres présumés du groupe Boko Haram dans la nuit de dimanche à lundi, selon le correspondant de VOA Africa, Yaoundé. Le bilan fait aussi état d'une centaine de maisons incendiées. Les assaillants ont également brûlé une église et 4 boutiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est frontalière du Nigeria, où le groupe islamiste a aussi mené une attaque dans le nord-est, faisant 2 morts. L'attaque a été menée hier soir dans le village d'Alaou Kofa, près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Selon un habitant, les 2 victimes ont été brûlées vives et le village a été entièrement incendié. Il a ajouté que les membres de Boko Haram étaient venus pour voler du bétail, mais qu'ils ont été contraints d'abandonner les troupeaux à l'arrivée des soldats nigérians.
Au Tchad, la grève s'est durcie, le personnel des banques privées, des opérateurs de téléphonie mobile et autres secteurs ont cessé le travail aujourd'hui en solidarité avec les travailleurs du public qui sont en grève générale illimitée depuis une semaine. Ce mouvement de protestation dénonce une coupe dans les primes et indemnités des salaires des fonctionnaires depuis ce mois de janvier. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Au Gabon, un appel à la grève des taxis lancé contre la hausse du prix du carburant et les tracasseries de la police qui raquettent, ce sont leurs mots, les chauffeurs de taxi, a été moyennement suivi aujourd'hui à Libreville. En Centrafrique, un premier groupe de 101 anciens rebelles ayant participé au projet pilote du programme de désarmement a été intégré aujourd'hui à l'armée nationale après 4 mois de formation au cours d'une cérémonie officielle à Bangui. Au Niger, 10 militants du front de l'opposition ont été arrêtés cette nuit à Niamey alors qu'ils prenaient part à un sit-in de protestation contre la présence de bases militaires étrangères, notamment françaises et américaines, sur le sol nigérien. Et des protestations également contre les nouvelles mesures fiscales dans le budget 2018. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon la présidente du Front de l'opposition indépendante, Madame Bayar Mariama Gamache, les 10 militants sont actuellement auditionnés au niveau de la police judiciaire pour tapage nocturne. Ce nouveau front a quitté le regroupement des partis politiques de l'opposition il y a quelques mois pour notamment son laxisme, a en effet appelé à un sit-in dimanche matin à la place Toumou. Du fait de la forte mobilisation, les participants ont décidé de continuer à rester jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est là que sont intervenus les arrestations, dont le porte-parole du front Alassane Intikar qui déclarait dans la matinée ceci.
Et premièrement, c'est les bases militaires. Par comment ces gens-là qui ont des drones, qui ont des matériels sophistiqués, qui ont des avions et les jihadistes viennent attaquer nos militaires, tuer nos militaires et ils ne voient rien. On est venu ici pour leur dire de dégager.
L'autre mobile de la manifestation, c'est la protestation contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2018, mesures jugées antisociales et contre lesquelles la société civile nigérienne appelle elle aussi à manifester pour la 3e fois dimanche prochain à Niamey et dans les grandes villes du pays. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Guinée, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kébé, a promis une publication d'ici la fin de la semaine des résultats du scrutin local de dimanche à Kindia, dans l'ouest, où la bataille a été particulièrement rude entre le maire sortant d'opposition et le candidat du parti présidentiel. Des affrontements ont fait un mort et plusieurs blessés aujourd'hui lundi. Forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale, selon l'Union européenne, qui s'inquiète après la mort d'un opposant en garde à vue et plus de 130 personnes détenues arbitrairement depuis les dernières élections. En RDC, un colonel déserteur de l'armée congolaise a été extradé depuis la Tanzanie. Le colonel John Chibangu est arrivé aujourd'hui à Kinshasa. Les autorités tanzaniennes ont accepté de l'extrader vers la RDC. C'est ce qu'a déclaré le ministre Alexis Tambwe Mambwa. Il est interrogé par les services de renseignement après avoir menacé de chasser le président Joseph Kabila du pouvoir. Et puis toujours en RDC, une messe sera célébrée ce vendredi à Kinshasa en la cathédrale Notre-Dame du Congo à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier. C'est le comité laïque de coordination qui dit vouloir honorer les martyrs et refuser la persécution des chrétiens. Au Kenya, Esmond Martin, un expert international du trafic d'ivoire, a été tué à son domicile à Nairobi. L'auteur de nombreux rapports luttant contre le braconnage des éléphants a été poignardé au cou. Une enquête a été ouverte et 4 personnes ont été arrêtées. Esmond Martin avait notamment travaillé sur le commerce illégal d'ivoire en Asie, en Chine, à Hong Kong, au Vietnam et au Laos. Et puis toujours au Kenya, 2 des 3 chaînes de télévision suspendues ont repris aujourd'hui leur diffusion. Les 3 principales chaînes de télévision privées avaient été suspendues après avoir rejeté l'injonction du gouvernement de ne pas diffuser l'investiture de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple le 30 janvier dernier. En Afrique du Sud, la direction de l'ANC se penche sur un éventuel départ anticipé du président Jacob Zuma. Il doit s'adresser jeudi devant le Parlement à l'occasion de son discours annuel sur l'état de la nation. Eric Manirakiza.
Les partisans du nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, font tout pour empêcher Jacob Zuma de prononcer son discours jeudi. En revanche, les alliés de M. Zuma estiment qu'il doit terminer son mandat qui expire en 2019. Pour trancher, le comité de travail de l'ANC, composé de 26 membres, est en conclave, mais cette instance dirigeante n'a pas le pouvoir de le destituer. Elle doit se référer au comité exécutif national. D'après le numéro 3 du parti Gwede Mantashe, l'exécutif de l'ANC a rencontré hier soir le président Zuma à Pretoria pour parler de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'ANC et du pays. M. Zuma a refusé de démissionner, selon un membre de l'ANC très bien informé des débats internes. Les pro et anti-Zuma ont manifesté aujourd'hui devant le siège de l'ANC à Johannesburg. Au Parlement, les députés de l'opposition ont déposé une nouvelle motion de défiance qui sera soumise au vote le 22 février.
Le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, est prêt à des négociations directes avec le Maroc. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à Alger Mohamed Salem Ould Salek, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui et démocratique. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole qui est aujourd'hui revendiquée par le Maroc.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, au moins 23 civils, dont 4 enfants, ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens du régime visant plusieurs localités de la Rauta orientale, région rebelle à l'est de Damas. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le point avec Salwa Jaafari.
Les images diffusées ce matin par le groupe des casques blancs sont choquantes. On y voit une opération de sauvetage d'un bébé extirpé des décombres. Beaucoup n'ont pas eu la même chance. Les jets russes ont intensifié leur bombardement sur les villes tenues par les rebelles. La veille, ces derniers avaient abattu un avion de guerre russe et tué son pilote. Les frappes les plus meurtrières ont visé la localité de Beit Sawa, où 9 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime du président Bachar al-Assad bombarde quasi quotidiennement la route orientale. À Sarakeb, dans le nord-ouest du pays, 5 personnes ont été traitées pour asphyxie.
Après 10 minutes, nous avons commencé à étouffer. Certains ont commencé à vomir et d'autres criaient. Ensuite, l'équipe de la protection civile nous a sauvés et nous a conduits à l'hôpital.
Assiégés depuis 2013 par les forces du régime, les quelques 400 000 habitants de cette zone rebelle vivent déjà une grave crise humanitaire avec des pénuries de nourriture et de médicaments.
Les États-Unis ont accusé aujourd'hui la Russie de retarder l'adoption d'une condamnation par l'ONU de ces attaques chimiques toujours présumées. Il y a des preuves évidentes d'utilisation de chlore dans ces attaques menées dans la route orientale. C'est ce qu'a souligné Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU. En Israël, un militaire israélien a été mortellement poignardé par un Palestinien près d'une colonie de Cisjordanie occupée, dans ce que la police israélienne a qualifié d'acte terroriste. Il est le deuxième colon assassiné en moins d'un mois après le rabbin Raziel Sheva, tué par balle le 9 janvier, alors qu'il circulait en voiture près de la colonie de Avad Gilad. Ici à Washington, l'espoir d'un compromis sur l'immigration s'amenuise au Congrès américain. L'impasse budgétaire se poursuit au Congrès entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate qui ne parviennent pas à s'accorder pour régulariser des millions de clandestins. Et puis en Belgique, le procès de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos djihadistes des attentats en France du 13 novembre 2015, a été suspendu jusqu'à jeudi. Il est également accusé d'avoir tiré sur des policiers à Bruxelles en mars 2016. L'accélération de la procédure s'explique en partie par le refus de Salah Abdeslam de répondre aux questions. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La RDC a réduit à 4 les vols de Brussels Airlines vers Kinshasa. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Jusque-là, la compagnie belge effectuait 7 vols par semaine. L'autorité de l'aviation civile à Kinshasa déplore l'absence de réciprocité dans l'exploitation des services aériens entre la RDC et la Belgique. Récemment, Kinshasa a aussi signifié à Bruxelles la fermeture de son agence de développement Inabel et celle de la Maison Schengen, le consulat de l'Union européenne en RDC, géré par la Belgique. Au Nigeria, le plus grand syndicat du port d'Apapa menace de bloquer tout accès des marchandises dans le pays. Il exige la réparation de la route qui mène au port devenu impraticable, paradis des criminels. Pour contourner ces problèmes de sécurité et logistique, les importateurs utilisent le port de Cotonou, au Bénin voisin. La directrice générale des autorités portuaires du Nigeria a estimé qu'il faut développer de nouveaux moyens de transport, des trains et des voies fluviales. En Afrique du Sud, la population de la mégapole du Cap fait face à la pénurie d'eau potable avec un risque de coupure de l'eau des robinets pour cause de sécheresse. Cette situation a provoqué l'épidémie de listériose et une forte hausse des cas de typhoïde dans la ville.
Passeport présenté ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Maroc remporte à domicile le CHAN 2018.
Et avec la manière devant son public et les 45 000 spectateurs de Casablanca, le Maroc a clôturé le championnat d'Afrique des Nations de football 2018 comme il l'avait ouvert par un beau festival offensif. Une victoire 4-0 face au Nigeria. Et dans la petite finale, samedi, comme en 2011, le Soudan monte sur la troisième marche du podium en s'imposant à Marrakech au tir au but face à la Libye, sacrée en 2014. Les Focaux de Djediane, qui avaient ouvert le score en début de match avant de se faire rejoindre par les Libyens dans les dernières minutes, ont été les plus adroits au pénalty. 4 tirs au but à 2.
En Europe, les buteurs africains sont en forme.
Inarrêtable Mohamed Salah, le virevoltant pharaon est toujours aussi décisif pour Liverpool, à l'image du doublé inscrit contre Tottenham, match nul 2 buts partout, dans l'un des chocs entre deux prétendants à la Premier League. Ce doublé lui permet de revenir à une longueur de son adversaire du jour, Harry Kane, meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Début réussi aussi pour Aubameyang à Arsenal. Le Gabonais, arrivé pour 63 millions d'euros en provenance de Dortmund, a livré une excellente prestation contre Everton, victoire 5-1. Aubameyang qui ouvre son compteur personnel d'une jolie pichenette. Aubameyang parti en Allemagne, c'est Salomon Kalou qui enfile les habits de buteur africain prolifique. L'Ivoirien de 32 ans a permis au Hertha Berlin d'arracher le match nul contre Hoffenheim, un but partout. Il s'agit du 8e but de la saison pour Salomon Kalou.
Quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et oui, Boston, leader de la conférence Est, s'est imposé sur le fil dimanche contre Portland, 97-96, grâce à un panier à la dernière seconde du pivot Al Horford, tandis qu'Oklahoma City a été surpris par les Lakers de Los Angeles, une défaite 104-108. Toronto, facile vainqueur de Memphis, 101-86.
Et bien sûr, l'événement de la nuit aux États-Unis, c'était le 52e Super Bowl en football américain.
Et bien, ce sont les Eagles de Philadelphie qui ont créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la NFL en s'imposant dimanche lors du 52e Super Bowl, 41-33. Ils battent les New England Patriots, évidemment, de Tom Brady,
le monde,
au terme d'un match excellent
VOA
de
Afrique.
Bout en bout.
Merci Nicolas. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Deuxième semaine de grève générale illimitée dans le secteur public au Tchad. Les travailleurs protestent à travers ce débrayage contre la réduction drastique de leur salaire. Le collectif des fédérations syndicales du secteur privé et parapublic vient d'entrer dans la danse, appelant ses militants à observer 2 jours de grève de solidarité à partir d'aujourd'hui. André Komadjinga, notre correspondant, nous fait le point de Tchamena.
Ces 2 jours de grève visent non seulement à soutenir les travailleurs touchés par la réduction des salaires, mais aussi un signal fort contre le taux excessif des impôts sur les revenus des personnes physiques prévus dans la loi des finances 2018. Les activités dans la ville de N'Djamena tournent au ralenti. Pas d'engouement devant les sociétés de téléphonie mobile et les banques de la place qui, d'habitude, grouillaient de monde. Sauf les guichets automatiques fonctionnent. Quelques clients rencontrés devant les banques se bousculent pour exprimer leur mécontentement dans le micro de VOA Afrique.
Très alarmant. Il faudrait effectivement que le gouvernement là, comprenne que le peuple est en train de souffrir.
J'ai des urgences, je suis venu chercher un peu de sous. J'ai maintenant la banque est fermée. Depuis 2014 à 2017, le gouvernement s'est endetté à plus de 800 milliards. Mais 2014 à 2015, nous n'avons pas encore de crise. Et ils ont pris ces bons-là, ils ont fait quoi avec?
Pour nous, clients, ça pèse sur nous parce que moi, je quitte Moudou, je voulais repartir. Et ce système m'a bloqué.
Le président de la commission formation et communication du Conseil national du patronat tchadien trouve cette grève légitime. Mahamat Tahir Kirela.
Le droit de grève étant reconnu à ceux-ci par une loi, nous, employeurs, nous prenons acte de cet état d'âme. Ils ont réagi parce que déjà, il y a une loi et nul n'est censé l'ignorer. C'est l'extérieur qui nous dit qu'il faut 30 milliards et il faut taper sur les employés pour prendre 30 milliards. C'est très douloureux.
Vu la détermination des travailleurs d'aller jusqu'au bout de leurs revendications, le gouvernement menace déjà de sanctionner les grévistes. Mahamat Mokhtar Ali, ministre de la fonction publique.
La grève, moyen légal reconnu aux travailleurs pour réduire drastiquement les capacités productrices d'une administration lorsqu'elle est déclenchée sans limite et sans contrôle. Dans tous les cas, le décret 687 sera appliqué, ainsi que la loi 32 aux agents publics absents de leur poste de travail.
Des menaces qui n'entament rien, la détermination des travailleurs, déclare le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barka Michel.
C'est une agression contre les travailleurs lorsqu'il dit qu'il faut leur appliquer la loi 32. Une loi que nous avons attaquée au niveau du Bureau international du travail et le Premier ministre et son gouvernement ont accepté de faire une relecture de cette loi. Nous, on est dans une grève illimitée. Hein. Il peut ne pas payer le salaire pendant 10 mois. Ça lui fera une plus grosse économie.
Les médecins qui acceptent le principe de service minimum dans les hôpitaux pour une durée d'une semaine, conformément à la recommandation de la plateforme syndicale revendicative, menacent déjà d'aller en grève sèche après le 6 février si aucune solution n'est trouvée. André Kodumadingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences communautaires opposant les Hema au Lendu continuent de faire des morts en Ituri. Les Hema affirment qu'au moins 23 de leurs membres de leur ethnie ont été massacrés depuis vendredi et des centaines de maisons incendiées. Par ailleurs, les autorités font état d'une dizaine de combattants Lendu tués. Pour parler de ce conflit, de ses origines, Morgane Guiriek a joint Nikez Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses.
Les Ma ont attaqué, les Lendus ont répliqué, mais ils se sont battus entre les deux communautés.
Qu'est-ce qui oppose ces deux communautés?
Les deux communautés ont vécu et vivent ensemble. Le problème part d'abord des revendications des terres. De façon générale, les Lendus pensent qu'ils ont été dépossédés par les Ema.
Les Ema sont des éleveurs et les Lendus sont des agriculteurs.
Effectivement, vous savez, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, c'est des conflits récurrents. Il suffit que la vache de l'éleveur aille brouter dans le champ des cultivateurs, ça pose des problèmes. Donc on ne peut pas parler à ce niveau d'une résurgence des conflits. Le conflit est latent, le conflit vit avec toutes les deux communautés.
Alors des analystes avancent aussi que cette hostilité remonte à la période coloniale.
Il y a une thèse laissée par des colons comme quoi les Lendus étaient un être inférieur, apte aux travaux manuels. Par contre, les Ema, c'était un être civilisé qui pouvait mieux comprendre la science. Il s'est créé un clivage où vous avez une majorité des Ema qui ont étudié par rapport à une minorité.
Ce conflit entre Ema et l'Hindou ne date pas d'hier. En 2003, il avait déclenché l'intervention de la force militaire européenne Artemis. Pourriez-vous nous rappeler ce qui s'était passé à l'époque?
Les hommes d'affaires Ema ont chassé les Lendus sur les terres que les Lendus considéraient comme les leurs depuis l'époque coloniale. Les Ema ont utilisé l'armée ougandaise et qui a agi contre les Lendus. Et les Lendus se sont vengés en brûlant presque 350 pieds de café des Ema, détruisant des maisons. Voilà l'élément déclencheur.
Et qu'avait permis l'intervention européenne Artemis?
Il y avait une disproportion de force parce que les Lendus attaquaient la nuit, avaient des machettes, des flèches. Et comme les Ema étaient soutenus par l'Ouganda, bon, il y a eu au bas mot 50 000 morts, ce qui a fait que Artemis, la force française, est venue déblayer les terrains pour permettre à l'actuel MONUSCO de s'asseoir un peu pour amener la paix.
La situation pourrait revenir à ce niveau de tension aujourd'hui?
L'avantage qu'il y a à Ditouri, c'est que quand les communautés sont en conflit, il y a des notables. Les sages, chaque communauté appelle ses enfants au calme et finalement ils se retrouvent pour résoudre les problèmes assez pacifiquement. Donc je ne pense pas que ça va prendre l'ampleur de 1999 à 2002.
C'était Nikèze Kibelbeloka, qui est notamment l'auteur d'un livre sur le sujet, Ituri, de la guerre identitaire au pillage des mines d'or de Kilomoto par des multinationales anglo-saxonnes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La piraterie maritime s'intensifie dans le golfe de Guinée. Un pétrolier de Hong Kong, avec un équipage indien de 22 membres, est porté disparu depuis dimanche. Avant sa disparition, le MT Marine Express mouillait dans le port de Cotonou, au Bénin, et transportait 13 500 tonnes de pétrole. C'est le deuxième bateau à disparaître dans cette région depuis le mois passé. Raissa Girondin a joint Omar Haruna, directeur de la US Africa Cyber Security Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
Oui, en effet, il faut dire que cet événement n'est pas singulier parce que déjà en janvier, il y a un autre navire qui a été pris au fait dans les mêmes environs au large des côtes du Bénin. Et les membres d'équipage en majorité étaient indiens et ont été relâchés 6 jours plus tard. Donc ça devient de plus en plus coutumier et je crois qu'il faut que nos autorités parlent, pas seulement les autorités béninoises, mais les autorités de toute la région prennent ce danger très au sérieux.
On se souvient de la piraterie au long de la Somalie dans l'océan Indien qui a complètement disparu, mais la menace, elle s'est déplacée dans le golfe de Guinée. Est-ce qu'il y a une urgence dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime dans la région?
Oui, il y a une urgence et il faut dire que dans le golfe d'Aden, des mesures ont été prises et ce qui a complètement dissuadé les pirates et ce qui ne se fait pas dans le golfe de Guinée. Pour moi, il y a déjà un manque de moyens criards au niveau du golfe de Guinée. Il faut que nos gouvernements mutualisent leurs ressources Il faut surtout aussi que les lois soient harmonisées et que l'aspect répressif des lois soit clair, parce que les lois sont hétérogènes en ce moment dans le cadre de la piraterie maritime au niveau de nos institutions en Afrique.
Donc selon vous, il pourrait y avoir une solution commune africaine pour mener à bien cette lutte ?
Il doit y avoir une solution commune. Et dans ce sens déjà, il y a des programmes qui étaient en place. Par exemple, au niveau entre le Nigeria et le Bénin, il y a ce qu'ils appellent un projet de prospérité dans le golfe de Guinée qui, au fait, permettait au Nigeria et au Bénin de mettre ensemble leurs ressources contre la piraterie. Mais aussi, on a besoin de l'appui des partenaires étrangers. Parce que vous savez, le golfe de Guinée est ce qu'on appelle en anglais « high traffic ». Et si vous vous rendez compte qu'à peu près 25% du pétrole vers l'Amérique du Nord vient de cette région, il faut essentiellement qu'il y ait un partenariat entre ces pays et les États-Unis. Mais aussi la France, je sais que la France avait un dispositif dans la région qu'ils ont appelé Corimb et qui s'occupait des intérêts de la France parce que effectivement ils ont des intérêts dans cette zone-là quand il s'agit du pétrole.
Oui, à côté de la piraterie, il y a l'émergence d'un trafic en tout genre. Les côtes africaines sont littéralement pillées par des pays qu'on connaît qui viennent se servir dans ces eaux. C'est un vrai problème selon vous ?
C'est un problème parce que ça va tuer déjà le commerce océanique dans la région. Et le Nigeria a une grande responsabilité parce que quand les pirates vont sur les bateaux, c'est pour siphonner au fait le pétrole qui sort des puits nigériens. C'est important que ces pays-là prennent leurs responsabilités d'abord, mais surtout que nos pays africains prennent la mesure de la situation.
Omar Haruna, directeur de US Africa Cybersecurity Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi 6 février, juste après les nouvelles, pour une discussion avec une Congolaise exemplaire, Solange Niamoulissa, journaliste et militante des droits humains qui milite en particulier contre la violence domestique ou violence familiale. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Lumami. À la console, Jonah Cummings. Au micro, Clairement Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont engagés à étendre leur partenariat économique et culturel avec l'Irak, a dit le secrétaire d'État adjoint John Sullivan lors d'un récent voyage à Bagdad. M. Sullivan a félicité le peuple irakien et les forces de sécurité irakiennes, dont beaucoup des membres ont perdu la vie en combattant le groupe État islamique pour libérer leur patrie. Le groupe État islamique et son idéologie demeurent le vrai ennemi de l'Irak. C'est pourquoi le peuple irakien et la coalition internationale de 74 pays se concentreront sur l'élimination de cette menace. L'unité est la meilleure arme de l'Irak contre le groupe État islamique, a déclaré le secrétaire d'État John Sullivan. Ce dernier a souligné le besoin d'un dialogue continu entre le gouvernement irakien et le gouvernement régional du Kurdistan. Les États-Unis soutiennent un Irak fédéral, prospère, uni et démocratique, en phase avec les aspirations de tous les Irakiens. Les États-Unis sont engagés à assister les victimes des atrocités du groupe État islamique, promouvoir la liberté religieuse et protéger la diversité religieuse et pluralisme. Un exemple de cet engagement ferme et visible dans l'œuvre des partenaires financés par les États-Unis et qui ont enlevé plus de 42 tonnes d'explosifs dans les provinces d'Anbar et de Ninive. Les États-Unis ont aussi fourni plus de 1,7 milliard de dollars en assistance humanitaire depuis 2014 en faveur des Irakiens déplacés par le groupe État islamique. À ces fonds s'ajoutent aux plus de 190 millions de soutien au projet de stabilisation administré par les Nations Unies, ce qui a permis à plus de 3 millions de déplacés irakiens de retourner chez eux. Toutefois, pour sauvegarder une stabilisation durable à travers le pays, l'Irak doit se construire. Le seul moyen de parvenir à un succès durable est d'encourager les investissements du secteur privé et la croissance. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent fermement la conférence sur la construction prévue en février au Koweït. Les États-Unis soutiennent également la décision du Premier ministre Haider al-Abadi d'organiser les élections le 12 mai prochain, conformément à la constitution irakienne. Tous les Irakiens doivent savoir que l'État qu'ils ont créé et pour lequel ils ont lutté se lèvera pour défendre leurs droits, a déclaré le secrétaire d'État John Sullivan. Ensemble, nos gouvernements et nos peuples peuvent surmonter les défis auxquels nous faisons face et sécuriser un Irak souverain, stable, unifié et démocratique qui renforce les aspirations des tous.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue.